Sœur Roxane, bonjour, bienvenue sur Radio Maria France.
Oui, bonjour, bonjour à tous ceux qui sont à l'écoute de votre radio. Je vous remercie de m'avoir invitée aujourd'hui pour cette émission. Pour me présenter, je suis une Augustine hospitalière de la Miséricorde de Jésus à Malétroit, dans le Morbihan. Il s'agit d'un ordre ancien qui date du Moyen Âge. Nous ignorons qui nous a fondés, hein. Nous avons l'habitude de dire que ce sont les pauvres finalement et les malades, nos fondateurs, parce que nous avons la particularité de prononcer un quatrième vœu qui est celui du service des pauvres et des malades par la miséricorde. Nous sommes des chanoinesses régulières, c'est-à-dire nous avons une forme de vie un peu particulière qui se situe entre la vie monastique et la vie apostolique. Nous avons une vie un peu monastique, effectivement, mais avec cette particularité d'être auprès des malades. Et à Malétroit, nous avons le monastère et en traversant un couloir, nous arrivons dans une clinique médicale qui appartient à la communauté des Augustines et qui nous permet de vivre en plein ce quatrième vœu. Hein. Nous, dans la communauté, nous sommes 25 sœurs. Personnellement, je suis plus engagée effectivement dans le service de soins palliatifs, mais on m'a demandé quand même de vous donner un petit peu mon parcours, comment j'en suis arrivée justement à être Augustine de la Miséricorde de Jésus. Il y a trois temps forts dans mon témoignage, on pourrait dire. Tout d'abord, un premier appel à l'âge de 4 ans, lors d'un pèlerinage à Lourdes, où j'ai senti très fort ce désir de soigner les malades. Je ne savais pas comment on disait infirmière, mais et c'est un désir qui ne m'a jamais quittée. J'ai commencé mes études d'infirmière, du coup, à 18 ans. Hein. Ensuite, un deuxième temps fort, c'est à 17 ans, où j'ai vécu un temps de rencontre personnelle avec Dieu et qui m'a permis de passer de la foi transmise par mes parents à ma foi personnelle. Mais une année plus tard, j'ai perdu deux amis dans des accidents de voiture et je pense que c'est un moment qui a été important dans ma vie par rapport à la question de la souffrance et de me dire mais pourquoi le Seigneur permet justement la souffrance, la mort de jeunes personnes, s'il nous aime tellement. Et c'est ce qui m'a amenée à faire une parenthèse de 2 ans dans ma vie de foi et finalement de me rendre compte hein, au bout de ces 2 années combien c'était un peu absurde hein, le fait de vouloir faire la tête au bon Dieu, si on veut dire, hein, par rapport à cette situation. C'est vrai que c'était aussi pendant mes années d'études à l'école d'infirmière hein, où je côtoyais assez jeune la maladie, la souffrance, la mort. Hein. Et du coup, je suis revenue à la foi, comme je vous disais, 2 ans plus tard. Et un autre temps fort, c'est à 21 ans, c'est 6 mois avant la fin de mes études d'infirmière, où vraiment j'ai senti l'appel du Seigneur à lui donner toute ma vie, à me consacrer à lui, et en retour cette promesse, justement, qu'il me rendrait heureuse, qu'il me rendrait féconde. Hein, c'est la vocation de la femme, hein, d'être féconde, de donner la vie. Si on ne donne pas la vie dans sa chair, c'est donner sa vie, spirituellement. Et dans le soin est un haut lieu hein, où l'on peut exercer justement cette maternité. J'ai pratiqué un petit peu mon métier et ensuite j'ai choisi de vivre cette expérience d'Abraham, de quitte ton pays. Hein. Je suis suisse, hein, c'est pour ça que vous pouvez entendre un petit accent. Et de quitter voilà, ces racines hein, qui pouvaient me retenir. Et je suis partie 2 ans au Gabon. Une expérience d'élargissement de mes horizons intérieurs. Hein. Et je suis entrée dans une communauté nouvelle hein, où j'ai vécu pendant 9 ans. Je pensais que le Seigneur me demandait de renoncer jusqu'à ma vocation de soignante. Et au bout de 9 ans, j'ai découvert les Augustines de Malétroit. Je ne savais pas qu'il existait encore aujourd'hui des sœurs soignantes. Et c'est là que j'ai pu sentir finalement une partie de moi qui s'est remise à vivre. Hein. et puis de pouvoir découvrir qu'il était possible de vivre et de respirer avec ces deux poumons de ma vocation religieuse et ma vocation de soignante, hein. Voilà un petit peu pour mon parcours.
Alors, comment en êtes-vous
Oui.
arrivé aux soins palliatifs?
Les soins palliatifs, on pourrait dire que je les ai rencontrés en deuxième année de mes études d'infirmière. Quand j'ai commencé mes études, je pensais que je serais instrumentiste, que je travaillerais en bloc opératoire. Et en deuxième année, j'ignore pour quelle raison, ou alors c'est la providence, m'a conduite à vivre un stage à option dans un service de soins palliatifs en Suisse, à Lausanne. Et j'ai été, on pourrait dire, retournée comme une crêpe, hein. J'ai découvert une autre facette du métier. Je me suis rendu compte que peut-être, ben, en cherchant la technique, ben, je voulais me cacher derrière les pinces. Et que finalement, ben, ce qui était le plus beau, hein, dans ce métier, c'était toute cette part relationnelle, hein, qui avait à se déployer. Je pense que c'est par peur. Et en fait, bah, les soins palliatifs sont revenus sur mon chemin quand je suis arrivée à Malétroit, puisque à la clinique des Augustines, nous avons bah, des services de gériatrie, de rééducation, de plaies chroniques, mais aussi une unité de soins palliatifs de 10 lits. Donc, qui accueille des patients qui sont dans une certaine complexité, hein, c'est-à-dire soit pris par la douleur, des angoisses, certains symptômes réfractaires, des patients jeunes, ça amène une complexité sociale, des patients pour lesquels il y a une question éthique qui se pose, ou alors nous faisons aussi beaucoup de séjours de répit sur 3 semaines environ pour des patients qui veulent rester à leur domicile, mais leurs proches, leur mari, leur femme est épuisée. Et a besoin d'une pause, justement, ou alors des fois certains séjours de répit pour des équipes soignantes aussi qui seraient en difficulté avec une prise en soin. Oui, j'ai découvert, enfin, j'ai reçu cette mission de ma prieure, hein, d'exercer dans le service de soins palliatifs. Ça fait 12 ans que j'y suis, hein, tout d'abord comme adjointe de la responsable d'unité, hein, donc de la cadre de santé. Et là, depuis 9 ans, je suis responsable du service, donc je fais fonction de cadre de santé. Et c'est vrai que c'est un peu comme si j'avais retrouvé les premiers amours dans le métier, hein. C'est vraiment un lieu magnifique de service, hein, de service de la vie, hein. Finalement, j'aime dire que c'est la maternité du ciel, hein. Finalement, cette unité de soins palliatifs a ouvert en 2003 à la clinique, et en 10 jours, la maternité a été fermée et l'unité de soins palliatifs a été ouverte dans les mêmes locaux. Et nous sommes passés donc du début à la fin de vie. Et j'aime dire qu'il y a vraiment des ponts. En fin de vie, il y a aussi tout un travail qui se vit, on pourrait dire avec des contractions aussi, et qui amène à une autre vie, hein. En tant que croyant, ben bien sûr, à la vie éternelle, mais ça passe effectivement par tout un travail qui peut se vivre par des moments, hein, de douleur, hein. Mais je trouve que c'est passionnant comme lieu. C'est vrai que souvent, quand on me demande ce que je fais, quand je dis que je suis en soins palliatifs, j'ai un peu une tête d'enterrement en face de moi, mais j'aime faire visiter ce service pour montrer que c'est un lieu de vie. Déjà, tout le monde, tous les patients qui y sont ne décèdent pas dans notre service, c'est pas un mouroir, hein. Le 30% de nos patients repartent à la maison, en maison de retraite, hein, parce que notre mission, c'est justement de soulager les personnes dans leur souffrance, que ce soit physique, psychologique, sociale, existentielle. Elles viennent avec une problématique. Et lorsque nous arrivons justement à stabiliser, à soulager la personne, ben, il s'agit pour nous de faire un projet, parce que tant que nous sommes dans les projets, nous sommes dans la vie. Si nous ne faisons plus de projets, bah, ça devient mortifère hein, d'attendre le jour J de la mort. C'est pas la vie. Hein. Donc du coup, en équipe, hein, avec des médecins, infirmières, aides-soignants, voilà, nous avons le souci de prendre en compte toute cette globalité de la personne. Pendant mes études, on nous disait l'être humain est biopsychosocial et spirituel. Donc, en équipe, hein, c'est pas une personne qui accompagne. Hein, j'ai de la chance d'avoir une belle équipe hein, qui fait du bon travail. Et à côté de cette équipe-là, il y a des paramédicaux, hein, la diététicienne, l'assistante sociale, la psychologue, l'orthophoniste, l'ergothérapeute, la kiné. Voilà, chacun apporte son expertise pour soulager la personne et puis pour lui apporter du bien-être, du mieux-être. Et encore au-delà de cette équipe élargie, il y a toute une équipe de bénévoles d'accompagnement laïque. Hein. Nous travaillons avec deux associations, l'association JALMALV et l'ASP 56, des personnes qui donnent de leur temps pour venir visiter les personnes malades qui sont dans l'unité de soins palliatifs. J'aime dire que c'est à travers eux la société qui s'intéresse à ses membres souffrants. Ce ne sont pas des blouses blanches et puis ça permet d'amener ben voilà, de l'air par rapport au milieu hospitalier. À côté de ça, nous avons aussi ben, une équipe d'aumônerie hein, qui apporte un accompagnement religieux mais aussi humain, amical aux personnes en visitant ben, les croyants comme les non-croyants hein, ou peu croyants. Et puis, nous avons des professionnels en médiation socio-corporelle. Nous avons le souci d'apporter du bien-être, du confort, de coucouner nos patients. Et du coup, plusieurs intervenants viennent grâce à des aides financières d'associations. Hein, nous sommes en recherche de financement pour plusieurs médiations socio-corporelles actuellement. Donc, nous avons une socio-esthéticienne qui intervient une demi-journée par semaine. Elle apporte voilà, des soins esthétiques qui peuvent aider par rapport à l'image de soi. Nous avons une sophrologue qui vient aussi une demi-journée par semaine pour des séances de relaxation. Une hypnopraticienne à travers l'hypnose, hein, c'est-à-dire apporter de la détente par rapport aux angoisses, mais aussi par rapport à... On peut aussi travailler sur la douleur, hein, sur certains types de douleurs. Et là, nous sommes en recherche de financement pour une harpe thérapeute, donc à travers la médiation de la musique, un zoothérapeute. Hein, nous avons fait un essai pendant 2 mois, hein, des animaux dans le service, chiens, lapins, et qui permettent à la personne de sortir des murs de l'hôpital et le bien-être de, voilà, de caresser un animal, de ne pas se sentir à l'hôpital. Pour l'équipe soignante, c'était aussi de beaux moments. Hein. Et puis aussi pour une art thérapeute, hein, à travers ben, la création, pouvoir exprimer quelque chose de ce qui est vécu. En fait, à travers ces médiations socio-corporelles, nous n'essayons pas d'apporter des activités occupationnelles. C'est plutôt à travers ces médiations, la personne qui n'arrive pas à mettre en mots avec une psychologue ou un soignant ce qu'elle vit, eh ben ça peut passer, les émotions peuvent passer à travers la création, de la peinture ou à travers le soin esthétique, à travers une séance de relaxation. Donc nous essayons d'être créatifs, inventifs au jour le jour, hein, en prenant chaque patient voilà, comme il est, là où il en est dans son chemin, avec ses questionnements, avec sa situation. Les soins palliatifs, finalement, ce n'est pas une spécialité de la médecine. Je crois que les soins palliatifs redisent à cette médecine qui est devenue de plus en plus technoscientifique le cœur de sa vocation. Hein. Nous ne sommes pas là pour être axés sur une maladie, un organe malade, mais nous sommes face à une personne. Et effectivement, une personne qui a une maladie incurable hein, en soins palliatifs, mais cette personne va la vivre parce que enfin, d'une certaine manière, parce qu'il va y avoir des retentissements, effectivement, sur sa psychologie, sur ses relations avec son entourage, et puis au niveau spirituel, existentiel, avec des grandes questions qui vont émerger. C'est souvent les grands pourquoi, hein, pourquoi je suis malade, pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, quel sens à ma vie, à quoi bon continuer de vivre. Donc c'est aussi notre mission, hein, d'aller pas à pas avec la personne là où elle en est, ses questionnements. Bien sûr, je n'ai pas la réponse, hein, quand on me dit pourquoi je suis malade, mais c'est plus aider la personne à donner un sens à ce qu'elle vit, hein, actuellement, quelque chose qu'elle n'a pas nécessairement choisi, mais voilà, pour bien rester dans la vie aussi, que faire de ce temps qui reste, boucler une boucle des fois avec une vie. Et puis il y a tout ce travail de relecture, hein, souvent qui est important. Moi je trouve passionnant, hein, enfin, ce service, hein, auprès des malades en soins palliatifs, parce que chaque jour, je reçois de belles leçons de vie, de courage. Et comme disait Cicely Saunders, hein, la pionnière des soins palliatifs, elle disait que les personnes malades ont besoin des biens portants, de leurs soins, de leur accompagnement, mais elle disait aussi que les biens portants ont besoin des patients, enfin des malades en fin de vie, pour apprendre à vivre. Et je crois que dans ce que je vis chaque jour, ben effectivement, j'apprends toujours plus à mieux vivre, en axant plus sur l'essentiel, hein, plutôt que de me prendre la tête des fois avec des choses anodines, hein, au quotidien. Donc c'est une belle aventure. Moi j'ai envie de dire que parler de soins palliatifs, de fin de vie, c'est parler d'un moment précis de la vie, cette vie qui est sacrée, hein, qui a un prix inestimable, de par, ben, la dignité de chaque personne, hein. Et il y a une part de mystère finalement dans la vie, hein. Nous voyons ça clairement, que ce soit au début ou à la fin de vie, finalement, qui de nous a décidé de venir au monde, et puis à tel moment, hein, ça nous échappe complètement, hein. Pour le croyant, ben, nous savons que c'est Dieu, hein, par l'intermédiaire de nos parents, hein. Donc nous recevons la vie, et puis un jour nous sommes appelés à la rendre au dernier souffle, hein. Dans notre parcours de vie, ben, l'être humain naît, grandit et meurt, et c'est dans l'ordre des choses naturelles, hein. La mort fait partie de la vie, même si de nos jours nous avons du mal à l'entendre, hein. Je sens bien que la mort et la souffrance, hein, sont devenus des tabous. Aujourd'hui, c'est plus la sexualité, hein, c'est vraiment la mort, hein. Et je vois bien la question du deuil aussi, qui est derrière, hein. Pour moi, je suis très préoccupée, par rapport aux personnes qui sont en deuil et qui sont souvent très isolées. Dans notre service, nous invitons les familles à revenir nous voir, à pas hésiter à nous solliciter. Et souvent, ben, ils peuvent nous exprimer combien leur entourage peut être maladroit, hein. On peut leur dire après un temps, bon, ben maintenant il faut que tu te secoues, que tu fasses ton deuil. Mais on sait bien quand on aime quelqu'un et que cette personne a été rappelé à Dieu, nous a quittés, que ça prend du temps, et il y a une vraie blessure, hein, qui est à vif, hein, au début, hein, et il faut du temps. Ça montre tout l'amour aussi que nous avions pour cette personne, et dans notre foi chrétienne, ben, nous pouvons nous dire que voilà, finalement, ben, l'amour est plus fort que la mort, hein. L'amour ne meurt pas, hein. C'est une relation autre qui va se tisser avec cette personne. Mais donc voilà l'importance pour chacun de nous d'avoir le souci, hein, de nos proches qui peuvent être malades, gravement malades, et pour ceux qui ont perdu un être cher. Par rapport aux soins palliatifs, je vous disais que c'était un lieu de vie, hein. C'est vrai que je vois des malades dans mon service hein, qui s'accrochent. Hein, des fois, médicalement parlant, on ne sait pas pourquoi ils sont toujours là. Hein, et on voit bien que l'homme est fait pour vivre. Hein, nous avons une force de vie qui est incroyable, qui est en nous, qui nous anime. Hein. Donc, c'est vrai que lorsque j'entends des personnes ou des familles qui souhaitent la mort, il y a vraiment quelque chose à entendre derrière, parce que c'est pas dans l'ordre des choses. Hein. Il y a sans doute une souffrance physique, une douleur morale, existentielle, hein, qui finit par envahir la personne et qui lui fait croire que seule la mort pourra la libérer. Hein. Et pourtant, ben, je crois vraiment qu'aujourd'hui, nous avons les moyens de soulager, parce que c'est vrai que c'est inhumain de laisser souffrir quelqu'un. Donc je pense que voilà, c'est vraiment on a une belle mission dans les soins palliatifs et j'aimerais vraiment que les soins palliatifs puissent se diffuser encore davantage pour éviter ces situations de maladie, de fin de vie qui sont tellement douloureuses pour la personne qui la vit et pour son entourage, hein, en restant dans des douleurs, des angoisses atroces. Hein. Donc c'est vraiment un challenge. Et aussi pour les soins palliatifs, nous avons comme à avancer sur une ligne de crête. D'une part, nous refusons l'obstination déraisonnable, c'est-à-dire ce qu'on appelle plus communément l'acharnement thérapeutique. Hein, et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les progrès de la médecine, ben, parfois la médecine peut aller trop loin parce que tout est possible. Et effectivement, nous rencontrons des situations qui peuvent être compliquées de ce fait en étant allées beaucoup trop loin. Donc voilà, nous faisons de l'éthique tous les jours, même plusieurs fois par jour, hein, en soupesant ben, voilà, le bénéfice-risque, ben, bien sûr avec la personne concernée, hein, son entourage, en équipe, hein, pour éviter justement de nous obstiner, d'aller trop loin. Et puis d'un autre côté, sur cette ligne de crête, il y a aussi voilà, le fait de refuser d'anticiper la mort. Hein, et justement d'aider la personne à rester dans la vie, du côté de la vie. Hein. En tant que soignant, nous avons choisi ce métier avec du fait de nos aspirations profondes. Hein. C'est jamais anodin de vouloir devenir soignant. C'est pour prendre soin de l'autre, hein, pour apaiser la personne qui est en souffrance, pour l'accompagner, l'écouter dans ce qu'elle vit. Hein. Et finalement, notre mission, c'est donner la vie et ça n'est pas donner la mort. Finalement, ben, le tu ne tueras pas, c'est pas qu'un interdit religieux, hein, c'est vraiment anthropologique. Hein. Nous ne sommes pas faits pour choisir le jour, l'heure, la manière dont la personne qui est en face de nous va nous quitter. Hein. Nous nous ferions maître de la vie et nous savons que c'est Dieu, hein, le maître de la vie. Mais vraiment, il y a un désir de don de soi, d'altruisme, hein, chez le soignant qui choisit voilà, ce métier qui est aussi une vocation, hein, on pourrait dire, au sens très, très, très large, hein. Mais j'ai aussi une préoccupation pour les soignants qui sont quand même mis à mal hein, au quotidien avec cette confrontation effectivement à la maladie, la souffrance, la mort, et par rapport aux questions existentielles, hein, ces grands pourquoi. Nous sommes bien petits hein, quand nous nous trouvons devant une personne qui nous dit « Mais pourquoi je suis malade? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je vais mourir hein. » Finalement, ces questions, ben, elles émanent de la vulnérabilité de la personne en souffrance. Et ces questions vont entrer en écho avec notre propre vulnérabilité, nos peurs, nos doutes, nos limites. Hein. Et cela demande, ben, pour le soignant, tout un chemin de réflexion intérieure, hein. C'est pas anodin, parce que nous ne travaillons pas sur des machines, hein, nous travaillons et nous nous donnons à des êtres humains qui peuvent être en grande fragilité et réveiller en nous notre propre fragilité. C'est vrai qu'il y a aussi la pandémie, hein, qui a bien secoué aussi les soignants avec ce que ça a pu mettre en lumière, hein. Et voilà, je pense qu'il y a vraiment un accompagnement des équipes, des personnes malades. Et je pense aussi à, des fois j'entends certaines personnes qui justifient le fait de que l'on avance au niveau de la législation par rapport au choix de mort, hein, où on dit mourir dans la dignité, mais qu'est-ce que ça veut dire la dignité si c'est pour piquer une personne, enfin mourir dans, enfin qu'est-ce que c'est vraiment la dignité? Les droits de l'homme avaient bien mis en avant cette dignité qui est intrinsèque à chaque personne. Il n'y a pas un curseur en disant que des personnes seraient plus dignes ou moins dignes de vivre. Et vraiment, les soins palliatifs répondent à cette problématique de la souffrance, hein, et du fait que c'est inhumain de laisser des personnes en grande souffrance. Après, certaines personnes peuvent dire c'est son choix, mais quel choix? Moi, je vois des gens qui se battent pour vivre, hein, dans mon service. Les quelques demandes à mourir, c'est à l'arrivée quand quelqu'un est dans des douleurs atroces ou alors dans l'accompagnement à un moment donné. Hein, il y a des souffrances, un passé qui remonte. Mais d'une fois que nous pouvons aider la personne, bah, à travers un accompagnement, des fois à travers certains traitements et accompagner toute une équipe et aussi d'être entouré par, j'oserais dire, par beaucoup d'amour, hein. Finalement, c'est ça que l'être humain a le plus besoin, de se sentir aimé et que sa vie vaut la peine d'être vécue jusqu'au bout. Ces demandes disparaissent peu à peu, hein. Et des familles qui, à un moment donné, pouvaient demander de la mort de leurs proches peuvent témoigner après de ce qui a pu être douloureux à vivre dans cet accompagnement, cette sorte d'accouchement, on pourrait dire, hein, mais qui finalement, ben, reste comme certains moments de très forts, hein, des fois des moments de bonheur, malgré la douleur de la séparation qui vient ensuite, hein. Donc voilà, une patiente me disait, mais finalement on devrait changer le mot soins palliatifs. Elle trouvait que il y avait une connotation très très négative et elle disait, mais si j'avais su, je serais venue bien plus tôt. Et ça, c'est quelque chose que nous entendons très très souvent, hein. C'est un mot qui a une connotation, mais finalement, si on le changeait, ben, l'autre mot prendrait aussi une connotation très, très négative, hein. Mais moi, souvent, je dis aux familles, mais quand ils nous disent comment vous aider, je leur dis, mais témoignez de ce que vous avez vécu parmi nous pour casser un peu les clichés et de voir que, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont possibles dans le soulagement aujourd'hui, et que finalement, ben, la vie est plus forte et la mort, choisir la mort, c'est abandonner quelqu'un. C'est pas de la compassion, hein. Et pour ça, ben voilà, je ne peux qu'encourager finalement le fait que les soins palliatifs puissent être diffusés et voilà, qu'on puisse aider les personnes malades, les familles, qu'on ait ce souci aussi dans nos entourages, hein, de se faire proche de ceux qui souffrent, hein. Aujourd'hui, nous fêtons, bah, Notre-Dame des douleurs, hein. Elle qui reste au pied de la croix, elle n'a pas fait de beaux discours, hein. C'était dans le silence, dans la foi, dans l'espérance, et c'est un bout cette présence-là qu'a besoin ceux qui nous sont proches et qui vivent ce passage. Je pourrais encore parler longtemps, mais je pense qu'il s'agit maintenant de vous laisser la parole. Donc voilà, je suis à votre écoute.
Merci beaucoup, Sœur Roxane. Une petite remarque. Vous parliez de soulager la souffrance, et j'avais entendu dire que les personnes qui arrivent dans des services de soins palliatifs en disant « mais je ne veux plus vivre », il faut entendre « je ne veux plus vivre en souffrant comme ça ». Et en fait, dès lors que la souffrance est soulagée, la personne fait le chemin qu'elle a à faire.
C'est souvent comme ça, effectivement. Dans le « je ne veux plus vivre », il y a une raison. Pourquoi la personne... C'est tellement pas normal dans l'ordre des choses. Finalement, comme je vous disais, nous avons plutôt tendance à nous accrocher à la vie. Et quand il n'y a plus cet élan de vie, c'est un peu comme s'il y avait un ressort qui était distendu en nous. Et du coup, il s'agit d'aider la personne à retrouver ce ressort. Et comme je vous ai dit, ça peut être des fois la douleur qui a distendu ce ressort. Des fois, ça peut être une souffrance morale ou existentielle, ou alors des relations avec l'entourage qui se sont modifiées. La personne ne se reconnaît plus. Et c'est là qu'il s'agit de revoir. Parce que finalement, nous avons chacun en nous les ressources pour vivre la souffrance. Mais c'est aider la personne à aller rechercher ces ressources, ce qui peuvent la garder du côté de la vie.
Alors, Sœur Roxane, peut-être une question. Vous nous avez dit que ce n'est pas une affaire de personnes individuelles au niveau de l'équipe soignante, mais une équipe pluridisciplinaire. Comment se déroule justement le travail entre tous les membres de l'équipe? Est-ce qu'il y a une journée type avec peut-être une réunion pour échanger? Comment cela se déroule?
Le grand moment de la journée, c'est à 9h, c'est celui que je suis en train de manquer ce matin en étant avec vous, hein, où finalement, c'est plus que des transmissions, hein. Nous prenons chaque patient et nous faisons un point sur sa situation, là où il en est. Et c'est vrai que c'est un moment important. Et une fois par semaine, nous avons ce qu'on appelle un staff interdisciplinaire avec les différents paramédicaux. Et suite à ça, nous cherchons à créer ensemble un projet de soins, un projet de vie. Et puis à côté de ça, il y a tous les moments d'échange, hein, informels, hein, entre les différents paramédicaux, les soignants, les bénévoles, l'aumônerie, hein, ou les professionnels de médiation socio-corporelle, hein. C'est vrai que nous communiquons énormément dans le service, hein, pour échanger voilà, sur l'orientation des soins, mais aussi des fois pour échanger sur toute cette part émotionnelle, hein, dans l'accompagnement, pour justement ne pas rester seul, ne pas porter seul et finalement être écrasé ou nous prendre pour le sauveur de la situation, hein. C'est ensemble, de partager ensemble, ça nous aide à porter ensemble, hein, oui.
Alors, vous nous avez parlé de votre communauté, donc les Augustines hospitalières de la Miséricorde de Jésus. Donc, vous nous avez dit que c'est un ordre ancien qui remonte, dont la naissance remonte au Moyen Âge. Et pourtant, plus récemment, dans l'histoire de votre communauté, il y a un personnage apparemment qui se démarque un peu. Il s'agit de Mère Yvonne Aimée. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Je pense qu'une bonne partie de vos auditeurs connaissent Mère Yvonne Aimée, hein, qui a vécu entre 1901 et 1951, et qui pour nous, suite à son entrée au monastère, hein, en 1927, a été un peu une refondatrice. Elle a eu des intuitions très fortes. Et c'est vrai que c'est une figure importante. Déjà, la clinique médicale, la clinique des Augustines n'existerait pas sans elle, hein. C'est elle qui a eu à cœur cette clinique, qui a dessiné les plans, qui a trouvé les financements et qui était sur le chantier alors qu'elle était encore au noviciat, hein. Et ensuite, Elle a été ma maîtresse de formation, elle était supérieure du monastère et elle a eu à cœur de regrouper différents monastères d'Augustine et de créer une fédération de monastères d'Augustine, ce qui n'existait pas à l'époque dans la vie religieuse féminine. Donc une fédération qu'elle a créée en 1946 et pour laquelle elle a été supérieure générale. C'est une personne qui est aussi connue. Malétroit est un lieu de pèlerinage. Hein. Tous les jours, nous avons des courriers, des mails, un peu de différents pays du monde, hein, des personnes qui viennent lui confier des intentions de prière, hein, et ou alors qui témoignent de grâces reçues par son intercession. Il y a aussi un dossier qui est en cours. Hein. Peut-être qu'un jour elle sera bienheureuse et sainte. Enfin, en tout cas, c'est un lieu de pèlerinage avec toute une piété populaire. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui a laissé une empreinte hein, dans notre communauté, qui est un modèle aussi. Hein. Elle a été, voilà, en tant que refondatrice, elle nous a remis dans un certain axe hein, d'hospitalière, de don de soi, de charité, d'oubli d'elle-même aussi. Hein.
Alors, Sœur Roxane, nous arrivons quasiment au terme de notre émission. Est-ce que vous avez un message particulier pour nos auditeurs, peut-être pour les proches ou pour les auditeurs qui seraient malades avec une maladie incurable?
Je dirais que face à quelqu'un qui souffre, hein, qui porte une maladie incurable, il n'y a pas de beau discours à faire. Hein. C'est simplement être là, à ses côtés, être une présence, une oreille, parce que du début à notre fin de vie, voilà, nous avons besoin d'être écoutés dans tout ce que nous vivons, les moments de bonheur comme les moments plus difficiles pour pas porter seul, hein, justement. Hein. Donc voilà, c'est être attentif chacun à nous faire proche hein, et puis avoir aussi les personnes malades non pas enfermées dans une maladie. Hein. Une personne qui est malade, elle est bien plus que sa maladie. Hein. Elle reste quelqu'un qui peut apporter beaucoup. Hein. Comme je vous ai dit, moi je reçois beaucoup hein, dans cette mission qui m'est confiée. Et j'ai une reconnaissance envers chacune des personnes malades que je rencontre ou de leurs proches hein, en voyant ben, voilà, ce courage, cette force de vie hein, pour traverser cette épreuve. Hein. Donc oui, il y a des peurs qui peuvent monter, mais voilà, de rester bien du côté de la vie, de la rencontre, de la présence à l'autre, de l'écoute, hein, et de se mettre vraiment à niveau hein, pour savoir ben, accueillir, recevoir ce que la personne peut nous apporter. Hein. Et je souhaiterais vraiment que voilà, nous restions vraiment du côté de la vie, hein, du côté de la vie, hein, malgré cette situation, cet accompagnement des fois qui peut être délicat. Choisir la vie, hein, envers et contre tout, hein, choisir d'être là et puis d'aimer, puis de se laisser aimer aussi dans notre vulnérabilité. Hein.
Eh bien, merci beaucoup, Sœur Roxane, pour ce temps que vous nous avez accordé aujourd'hui, et puis peut-être à bientôt.
C'est moi qui vous remercie. Bonne journée.
Merci, au revoir.
Au revoir.